Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir celle qui anime cette émission depuis de très nombreuses années sur notre station, Sandrine Schwartz. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Pierre.
Sandrine, vous êtes docteur en histoire moderne et contemporaine, diplômée de la section des sciences religieuses à l'école pratique des hautes études en Sorbonne, chercheuse. Le renouveau de la pensée juive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est au cœur de vos recherches. Coordinatrice des enseignements à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel et à la section normale des études juives, vous vous attelez à faire reconnaître la réflexion de la philosophe, psychanalyste et exégète Eliane Amado Lévy-Valency. Vous êtes également l'auteur de l'essai sur les intellectuels juifs de 1945 à nos jours, de plusieurs articles sur les penseurs juifs d'expression française et de contributions à des ouvrages collectifs, mais aussi sur un homme que beaucoup ont découvert avec vous, le fascinant Shoshani, aux éditions Hermann, comme vos autres ouvrages d'ailleurs, et pour lequel nous vous avions reçu ici même il y a 2 ans. Et ce soir, nous allons parler de votre nouveau livre. Il s'appelait Shuna, résistant fusillé à 20 ans, avec une préface de Serge Klarsfeld aux éditions Hermann. Mes parents bien-aimés, je vais être extradé tout à l'heure à 4h de l'après-midi. Je l'ai appris tout à l'heure avec mes camarades. Nous attendons très calmement cet instant dernier. Je vous demande très sincèrement si vous voulez satisfaire mon dernier désir de ne pas porter mon deuil, car c'est contre mes idées. Vive la France. Dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de l'occupation nazie en France, émerge un jeune homme dont le courage et la détermination allaient marquer l'histoire. Shuna Bajtok, juif communiste polonais, incarne l'esprit de la résistance, défiant l'oppression avec une conviction inébranlable. Ses derniers mots, rédigés quelques heures avant son exécution dans la clairière du Mont Valérien, le 6 octobre 1943, avec 24 de ses camarades résistants, éclairent ses engagements. Et à travers une recherche minutieuse et des témoignages poignants, votre livre retrace la vie fascinante de Shuna Bajtok depuis sa naissance à Varsovie et son enfance passée à Livry-Gargan jusqu'à son implication dans la lutte contre l'occupant hitlérien et ses collaborateurs, preuve de son dévouement total à la liberté et de son rôle dans l'histoire de la résistance. Alors j'ai été un peu long, mais avant d'évoquer la vie de Shuna, on va placer le décor. Si Shuna est née, je le disais, à Varsovie, son enfance et son adolescence se passent à Livry-Gargan, en région parisienne, où vivent de nombreux juifs étrangers qui ont trouvé ici un lieu de paix, loin des pogroms de l'Europe de l'Est, qui se déroulent en cette fin du 19e siècle et tout début du 20e siècle.
Déjà, merci de cette présentation. Je crois que tout est dit. Maintenant, c'est du détail que je vais ajouter. Alors évidemment, ce contexte de Livry-Gargan est important pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue historique, on a oublié que Livry-Gargan était un haut lieu de la Yiddishkeit. Une vie juive intense y régnait. Un historien a même dit que c'était le Brooklyn de l'Île-de-France, avec une synagogue, des lieux d'études, un théâtre yiddish qui fonctionnait quasiment quotidiennement en dehors des fêtes, une avenue commerçante, l'avenue de Chanzy, qui était vraiment composé de magasins de familles juives, et puis les familles juives qui gravitaient autour de cette avenue commerçante, et puis de l'autre côté le canal de l'Ourcq qui accueillait les ouvriers qui le dimanche du tramway dont le terminus était à République, dans le Marais, en tout cas des quartiers juifs, et venaient se reposer ou respirer le bon air à la fin de la semaine.
Oui, parce qu'il faut préciser aussi que c'est les fameuses guinguettes qui sont là le long du canal de l'Ourcq.
Oui. Alors avec cette petite anecdote qu'on a oubliée, la guinguette, parce que on y servait un vin aigrelé, le guinguet, et qui était vraiment un lieu de réjouissance, de repos et d'amusement le week-end, déjà avant les congés payés. Donc Livry-Gargan, c'est une famille qui s'installe, puis une deuxième, puis une troisième, puis les cousins des cousins, et n'oublions pas que les familles ashkénazes, quand elles arrivaient en France, elles n'avaient pas le français. Ce n'est pas le cas généralement des juifs séfarades qui sont arrivés après la libération. Et donc, elles avaient besoin, pour vivre en France, ces familles qui souvent quittaient l'Europe centrale ou orientale parce qu'un antisémitisme y régnait, elles avaient besoin d'être entourées, encadrées, et elles allaient où d'autres familles juives étaient présentes. Et donc, une vie juive se développe à Livry-Gargan et la famille de Shuna Beistock s'y intègre. Vous l'avez dit, Shuna est né en 1923 à Varsovie. Il arrive en France, il n'a qu'un an. Au début, sa famille reste quelques mois à Paris et puis il va à Livry-Gargan parce qu'à Livry-Gargan, il y a une grande communauté. Il y a notamment une association de secours mutuel dont je suis aujourd'hui la présidente.
La Fraternelle.
La Fraternelle, qui permet d'encadrer la vie des Juifs de la naissance à la mort. Donc, c'était assez confortable pour ces familles de s'y retrouver. Donc, ça, c'est le contexte historique. Et puis, il y a le contexte personnel, parce que depuis cinq générations, ma famille paternelle vit à Livry-Gargan depuis mon arrière-grand-père et j'ai été bercée depuis ma plus tendre enfance par le récit de ce résistant juif communiste de la ville qui avait été cueilli dans la fleur de l'âge, qui avait commis des actions héroïques. Et en fait, un beau jour, j'avais un mémoire de DEA à réaliser. Je me suis dit, pourquoi pas travailler sur ce personnage.
On va en venir à cela dans un instant. On revient à Shuna. Donc, il parle yiddish chez lui, ce qui ne l'empêche pas d'être un excellent élève. L'historien Adam Reisky, que vous citez, explique « Le processus de leur intégration est d'autant plus rapide qu'ils se trouvaient favorisés par leur hâte fébrile d'en finir avec la condition d'immigrer. »
Il arrive en France d'une famille communiste polonaise qui ne parle pas un mot de français, qui parle yiddish. L'école est obligatoire à partir de 6 ans, mais les parents mettent Shuna à l'école laïque et républicaine, l'école publique, à l'âge de 3 ans, et il remporte très vite des succès. J'ai à la maison ses livrets scolaires, ses bulletins, il est quasiment toujours premier. Il apprend le français, parce que le français, c'est pas n'importe quoi. C'est une langue qui incarne des valeurs et qui explique aussi pourquoi un certain nombre de Juifs étrangers sont arrivés en France. La France est quand même le pays où il a été possible de réhabiliter un capitaine juif injustement accusé, le capitaine Dreyfus. C'est le pays de l'émancipation des Juifs de France pendant la Révolution, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le fameux dicton yiddish y prévalait, heureux comme Dieu en France. Parfois, on traduit heureux comme juif en France. Et donc, c'est parce que la France incarne ses valeurs que ces étrangers s'y pressent et en respectant la langue de ce pays qui est le français. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que quand il était petit, Shuna, il a eu des prix parce qu'il était excellent élève et il a eu notamment un livre de Victor Hugo et il y a un autocollant collé à l'intérieur qui démontre que Shuna, tout petit, était premier prix de littérature, d'orthographe, de composition française. Pour quelqu'un dont la langue maternelle n'était pas le français, c'est quand même assez remarquable.
Et il se débrouille très bien en maths, physique et en géométrie.
D'où les études qu'il fera par la suite à l'école d'Hydro, une école d'élite pour les ingénieurs et en essayant de devenir conducteur électricien.
Pendant cette enfance et cette adolescence, à Livry-Gargan, il ne rencontre pas d'antisémitisme.
Alors, la ville de Livry-Gargan et la commune limitrophe, les Pavillons-sous-Bois, étaient étaient deux villes assez particulières. Elles étaient très ouvrières, très communistes, et il y avait des populations qui venaient d'Italie, de Pologne, pas juifs, évidemment, et qui étaient très à l'écoute. En tout cas, l'antisémitisme régnait très peu là-bas. Alors, il y a eu évidemment des déportations pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait une sorte de réseau d'entraide, et quand la guerre a éclaté, les familles juives ont été cachées, dont la famille de mon père.
Alors, cet entre-deux-guerres se distingue aussi par des choix politiques. Les juifs, notamment de Pologne, dont est issu Shuna, se doivent d'ailleurs de choisir un engagement politique. Ils sont soit communistes, soit bundistes, c'est-à-dire à peu près socialistes, soit sionistes, et encore dans le sionisme, il y a plusieurs degrés. En tout cas, ces choix politiques résultent de cet antisémitisme d'extrême droite qu'ils ont fui pour venir en France. La famille de Shuna est communiste, et donc Shuna le sera aussi. Cette famille est juive, mais elle ne se considérait pas comme telle. Pourquoi ?
Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait les choses ne sont pas si claires que ça. Donc vous l'avez expliqué, il y avait trois obédiences hein, qui régnaient dans ces populations récemment immigrées d'Europe centrale ou orientale, le communisme, le bondisme, sionisme, on pourrait y rajouter une quatrième catégorie qui était moins fréquente, c'était les mouvements orthodoxes. La famille de Chouna était profondément communiste. Donc, ils avaient délaissé le judaïsme, la religion, au profit de ce qu'on appelait l'opium du peuple, c'est-à-dire l'idéologie communiste.
Vous écrivez même que sa famille disait qu'elle était athée.
Elle était athée. Et donc c'est très important après pour l'engagement ultérieur de Chouna parce qu'il préfère s'engager dans la résistance des FTPF laïques et communistes plutôt que dans les FTP Moy, ce qui est une petite particularité. Et donc la famille de Chouna, bien que profondément communiste, gardait quand même un substrat d'attachement au judaïsme. Alors totalement désacralisé, hein, pas de rite, mais le père de Chouna, Abraham Weishtock, se rendait quand même le jour de Yom Kippour à la synagogue. Il cotisait à la fraternelle, cette association juive. On parlait le yiddish en famille. Évidemment, on avait gardé les spécialités aussi culinaires du judaïsme. Et ce qui est tout à fait intéressant, dans les archives de Chouna Weishtock, qui ont été conservées religieusement par la famille et que aujourd'hui j'ai pu consulter, c'est qu'il y avait un carnet de poèmes. Hein, on l'a dit, cet amour du français, de la langue, de la poésie. Il écrivait des poèmes et dans un de ses poèmes, qui s'intitule « Judae », Judéa, il parle des fils de Sem, condamné à errer toujours.
Il dit même, nous errons toujours dans l'univers, ils ne peuvent jamais savoir, c'est ses derniers mots, là où ils voient le jour.
Voilà.
Et alors, ça a beaucoup de résonance parce que, par exemple, dans ma famille, on n'est jamais né dans un même pays, de génération en génération.
Mais c'est le lot et la destinée du peuple juif. Donc pour quelqu'un qui était communiste, qui a fait partie des jeunesses communistes, dont le père était communiste, on ne peut pas se dépêtrer de ses origines juives. Et ce petit passage que vous citez, il est rappelé aussi par Serge Klarsfeld, qui a accepté de faire la préface de ce livre. Il l'a accepté sans doute par amitié, mais pour une autre raison, parce qu'avec Léon de Sévéry, il avait travaillé sur les fusillés du Mont Valérien. Mmh. On a longtemps pensé, et notamment au mémorial du Mont Valérien, qu'il y avait 4000 et quelques fusillés. Et Serge Klarsfeld et Léon de Sévéry démontrent qu'il y en avait 1007. Et donc, dans cette préface, il rappelle ce poème pour dire que, sans doute, alors on ne peut pas savoir, hein, et c'est le débat, s'il avait survécu, puisqu'il a été fusillé dans la clairière du Mont Valérien le 6 octobre 1943, peut-être aurait-il été engagé en Israël pour combattre en faveur de l'indépendance de l'État d'Israël ? Il aurait été sioniste.
Alors, vous l'avez évoqué brièvement, mais on va y revenir beaucoup plus en détail. Chouna, on le rappelle, est né en 1923. Le 22 juin 1940, jour où est signé l'armistice après la défaite française face à l'Allemagne nazie, il a 17 ans. Il est polonais, juif étranger, communiste, et il a déjà une réelle conscience politique que son seul choix, sa seule évidence, c'est combattre l'occupant nazi et donc de s'engager dans la résistance. Et vous l'avez dit, il choisit les francs-tireurs et partisans français plutôt que les francs-tireurs partisans Moy. Au-delà du fait qu'il se considérait comme laïque, pourquoi ce choix ?
C'était une vraie volonté de sa part d'entrer dans un mouvement laïque, qui ne soit pas religieux, parce que s'il s'engage en résistance, c'est évidemment pour sauver sa peau. On le répète, hein, juif, étranger, communiste et polonais, c'était une cible. Donc, s'engager dans la résistance, c'était un sauf-conduit, d'autant plus que va lui arriver à une certaine période un avis du STO, du service du travail obligatoire, qu'il a fui, donc il était forcément dans la clandestinité. Mais il avait en lui des vraies valeurs à défendre, et s'il s'engage, c'est pas que pour lui-même, c'est pour tous les jeunes Français, et notamment son petit frère, Éloi, et pour leur assurer une certaine liberté. Sa volonté est vraiment de combattre pour la liberté et pour la liberté de tous les Français, quelle que soit leur confession.
D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, son petit frère Éloi, il s'appelle Éloi parce que l'officier d'état civil, il a mal orthographié Élie, qui était son vrai nom, et il l'a appelé Éloi.
C'est même pire que ça. Ce qui est assez personnel dans cet ouvrage, et c'est sans doute aussi pour ça que j'ai travaillé sur ce résistant, parce que ça sort un petit peu de mes recherches habituelles sur les grandes figures de l'école de pensée juive de Paris, c'est parce qu'il est de Livry-Gargan, et peut-être parce que son petit frère s'appelait Éloi. Il est décédé maintenant. Mon père s'appelle Éloi aussi, parce que il a subi exactement la même chose que ce qui s'est passé pour lui.
En fait, ils étaient amis.
Alors, ils étaient amis parce qu'ils s'appelaient Éloi, parce que mon père est né à Livry-Gargan aussi. Et quand mon grand-père a voulu enregistrer le prénom Élie pour mon père, eh bien, l'officier d'état civil a dit non, c'est pas dans le calendrier, c'est trop juif, et on va prendre le nom du saint Éloi. Et je pense qu'en France et en Navarre, il n'y a que deux juifs qui s'appellent comme saint Éloi, c'est mon père et le petit frère de Shuna Baïstok.
Alors, donc, pour en revenir, donc, il choisit les francs-tireurs et partisans français plutôt que les FTP Moy. Est-ce que vous avez pu retrouver ces actes de résistance? Que fait-il dans la résistance?
Alors, il a été arrêté au cours de sa dernière action de résistance et du fait de cette arrestation, eh bien, il y a un dossier assez épais à la préfecture de police de Paris avec ses interrogatoires. Il a été torturé et donc il a dû avouer, et on sait qu'il a commis un certain nombre de faits de résistance qui ont commencé très gentiment, mais c'était quand même assez risqué, par distribuer des tracts dans son école, le lycée Diderot. Après, ça a été des tentatives d'assassiner des soldats allemands qui étaient massés dans le bois de Vincennes. Et puis crescendo, il y avait au Rincy une section du RNP, du Rassemblement National Populaire, dirigée par Déa, dans lequel Shuna s'était, avait tenté de s'intégrer au mouvement des jeunes. Donc il avait l'uniforme, etc. Et il y avait le responsable de ce mouvement, un avocat, qui était un dénonciateur de juifs. Donc pour sa survie à lui, à celle de sa famille et de celle de ses amis, eh bien il a tenté de l'assassiner. Malheureusement, ça s'est pas passé comme il le souhaitait, l'arme s'est enrayée. Et on lui a demandé d'autres actions jusqu'à assassiner un responsable du PPF. Donc là, c'est un autre mouvement collaborationniste, le Parti Populaire Français dirigé par Doriot. Il était lui aussi avocat dans le 8e arrondissement. Et là, ça se passe pas très bien. À tel point qu'une nouvelle fois, l'arme qu'on lui a donnée s'enraye. Et puis surtout, il n'y a pas de voiture qui l'attend à la sortie. C'est sa petite bicyclette avec la plaque de la bicyclette qui est sa vraie identité et son adresse, celle de ses parents à Livry-Gargan. Donc on lui tombe dessus. Et là, il savait qu'il était destiné à la mort.
Vous reproduisez les lettres de Shuna, que Shuna en fait a écrit à ses parents, son professeur ou à ses amis quand il a été arrêté. Et ce qui m'a frappé, ce sont les lettres à ses parents qui finissent toujours par « Vive la France » et pas pour les autres destinataires. Pourquoi selon vous?
Il était, on l'a dit une nouvelle, on le redit, hein, il était profondément communiste. Ce « Vive la France », il va l'écrire aussi dans la chapelle du Mont-Valérien, juste avant son exécution. Les otages, les résistants étaient massés. Il va écrire Shuna Baïstok, sa date de naissance, « Vive la France » et « Vive l'URSS ». En fait, il veut justifier à ses parents pourquoi il est mort. Il a été...
Mais pourquoi plus à ses parents, par exemple, qu'à son professeur?
Alors, il y a d'autres éléments patriotiques à son professeur, mais il dit d'autres choses.
Oui.
En fait, à ses parents, il essaye sans doute de dire, voilà, je me suis pas battu, je ne vais pas mourir pour rien, je me bats pour la France, et c'est une sorte de justification peut-être pour lui-même. Les lettres sont très émouvantes, hein, vous l'avez dit, son professeur de l'école Diderot, le professeur Pérègne, un ami de l'école Diderot, Daniel Lancia, et puis ses parents, mais il y a quand même un point commun de ce patriotisme dans toutes ces lettres. Et ces lettres, je pense qu'elle devrait être lue dans les écoles, un peu comme Guy Môquet, parce que, on le rappelle, hein, Chouna était immigré, il n'était pas français. Et pourtant, il s'est plié aux lois de la République, il avait cet amour de la France, c'était un combattant de la liberté, et s'il meurt, c'est pour défendre ces valeurs-là. Et aujourd'hui, certains immigrés arrivent en France et essayent de faire imposer ce qui est leur culture. C'était pas du tout le cas de Chouna Beistock et des autres immigrés qui arrivaient en France dans l'entre-deux-guerres.
Quand vous avez écrit ce livre, on pense forcément à l'époque actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des Chouna Beistock?
Je ne sais pas. Déjà, le communisme n'est pas le même. Parce que le communisme, c'est pas l'extrême-gauche d'aujourd'hui. C'est vraiment une liberté à
mais
défendre.
Peut-être pas sur l'aspect communiste, mais sur cette idée de combattre pour la liberté, de combattre pour la France, d'avoir cette, je dirais, cette impression que ce qu'on fait, on le fait pour quelque chose de bien plus grand et bien plus important que soi.
Ben, je pense que j'ai écrit ce livre pour faire passer ce message-là aujourd'hui, c'est que ces valeurs se perdent, qu'on est individualiste, que quand on a une religion notamment, on essaye d'imposer ses us et ses coutumes. C'était pas du tout le cas de ce résistant et de ses amis. C'est que on arrive en France, et bien on se fond dans ses valeurs, et les valeurs, c'est celle de la neutralité, de la laïcité et du respect des lois de la République. Et s'il n'y avait qu'un message à retenir de ce livre, ce serait sans doute celui-ci.
Alors, pour finir cette émission, je vous pose la question que vous posez traditionnellement à tous vos invités. Si vous deviez donner envie à nos auditeurs de lire votre livre, que leur diriez-vous?
Et là, je m'aperçois que c'est une question piège et très difficile. C'est que, en fait, on est dans une année particulière. Le 21 février dernier, les cendres de Missak Manouchian et de Méliné, et en même temps des autres camarades de l'affiche rouge, sont entrés au Panthéon, des combattants de la liberté, et on a oublié qu'il y en avait d'autres, 1007 en tout, qui ont été fusillés dans la clairière du Mont-Valérien et qui avaient des valeurs à porter. Chouna Beistock est un de ces exemples, et qui a valeur de modèle aujourd'hui par cet amour de la France, par cet amour de ses lois, sa méthode et de sa langue, et que peut-être que les lettres qu'il a écrites trois heures avant d'être fusillé mériteraient aujourd'hui d'être lues et d'être transmises aux nouvelles générations.
Il s'appelait Chouna, résistant, fusillé à 20 ans, préface de Serge Klarsfeld, c'est de Sédition Hermann et c'est signé Sandrine Schwartz. Merci Sandrine d'avoir été l'invitée du côté de chez Schwartz.
Merci beaucoup.